de ce soir aurait pour titre « Mémorial épiclèse » et à l'occasion de cela, eh bien, les différences de sensibilité entre l'Orient chrétien et la liturgie latine. On a déjà, avec la prière de bénédiction juive, on a vu combien la liturgie elle-même, la spiritualité juive, a été une matrice pour la liturgie chrétienne. Et bien ici, ça pourrait être l'occasion de voir, malgré tout, la différence de tonalité entre l'Orient et alors, la liturgie latine qui est la nôtre. Et quoi qu'il en soit, nous réagissons en latin, puisqu'au fond, la liturgie nous façonne. Voilà, c'est un peu cela. Alors, donc, d'abord, trois remarques préalables. Il y a eu un petit problème technique, là, semble-t-il, la fois dernière, en ce sens que tout d'un coup, le micro-cravate a lâché. Et alors, je n'étais pas assez proche de cet appareil-ci. Alors, certains auraient eu de la difficulté à comprendre ce que je disais. Deuxièmement, vous avez encore un certain nombre de feuilles cette fois-ci, mais ne vous en faites pas. Vous ne serez pas sous une avalanche de feuilles, heure après heure. Tout simplement, que voulez-vous, c'est la prière de l'Église, c'est notre prière, et il n'y a rien que, de suivre, de voir les textes, de se laisser enseigner par les textes eux-mêmes, avant de faire des théories, ou même, je dirais, faire de la théologie. Donc, voilà. Et alors, vu que le thème, cette fois-ci, est épiclèse et mémorial, je vous ai repassé d'abord les textes que je vous avais passés la fois dernière, parce que j'ai trouvé que c'est encore à partir de ces deux pages sur la deuxième prière eucharistique et l'anaphore d'Hippolyte qu'on peut au mieux repérer ce qu'il faut entendre par mémorial et épiclèse. Alors, il y a deux autres feuilles. Celle sur le canon romain, non, nous ne la lirons pas, il y a moyen de la lire chez vous. L'intérêt, c'est de voir comment se structure cette prière qui a été celle de l'Église latine et la nôtre, pratiquement, depuis les origines en tout cas, déjà chez saint Ambroise, il cite quelques phrases et qui sont pratiquement celles du canon romain tel que nous l'avons. Voilà. Donc, et jusqu'en 1968. Alors, c'était la seule prière eucharistique en Occident chrétien. Et alors, par ailleurs, là aussi, nous ne lirons pas, sauf que je repérerai quelques éléments. La liturgie qu'on appelle la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Il y a trois grandes prières eucharistiques en Orient. Il y a la liturgie de Saint Jean Chrysostome, c'est celle dont on se sert habituellement dans les églises d'Orient. Il y en a une autre, Saint Basile, qui elle est utilisée, et l'était enfin jusqu'à tout récemment, uniquement pour les grandes fêtes. Il y en a une troisième, Saint-Jacques, davantage celle de ce qui était à ce moment-là, l'église de Jérusalem. Donc, vous voyez, on aura les deux modèles de liturgie. Alors, donc, le thème, comme vous disiez, c'est mémorial et épiclèse. Au fond, voyez-vous, ça revient à ceci. Maintenant, on a eu le récit de la scène. On a vu comment, comment la prière de bénédiction juive avait été trouvée transformée dès le point de départ, en action de grâce. Et alors voilà que je dirais tout simplement, ce soir, eh bien, nous reprenons la phrase du Christ lui-même, « Fais ceci en mémoire de moi ». Et l'Eucharistie, on l'a déjà vu, c'est encore des mots qu'il est bon de garder en mémoire. Eh bien, c'était un grand liturge, Jungmann, qui avait dit que l'Eucharistie, c'est une prière en mémorial, retenons le mot, en mémorial, sous la forme d'une action de grâce. Donc, c'est même une prière en mémorial, sous la forme d'une action de grâce. Et alors, donc, ce qui maintenant c'est important, c'est de voir, faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est de voir qu'est-ce que l'Église fait. Parce que dans la prière eucharistique, c'est même l'Église qui pose des actes. Quand je dis l'Église, vous voyez bien, et la prière eucharistique, ce n'est jamais au pronom je, c'est toujours le pronom nous. Le nous, eh bien, c'est à la fois le président de la célébration. Et en même temps, eh bien, tout le peuple a rassemblé, donc vous et moi, de ce point de vue-là. Et alors, donc, l'Église pose des actes. Donc, non pas pour se substituer au Christ, mais pour, à travers ses propres actes, eh bien, le rendre lui-même présent. Voilà. Le rendre présent et agissant au milieu de nous. Autrement dit, à travers les actes que propose l'Église, eh bien, c'est le Christ lui-même, dans ce qu'il a fait à la dernière scène, non seulement que nous reproduisons, mais alors qui pose ces mêmes actes dans l'Église. Alors, eh bien, ce qui est important, voyez-vous, c'est de les repérer, ces actes, qui sont ceux de l'Église. Comme je vous le disais, ils sont toujours au pronom « nous ». Et alors, je me dis, comme là, voilà, on va repérer cela ce soir. Ça pourrait être un bon exercice, peut-on dire. Parce qu'au fond, bon, dimanche prochain, ou dans une Eucharistie à laquelle vous... Eh bien, puisqu'on est familier, on aura acquis une certaine familiarité avec la prière eucharistique, eh bien... de réentendre le cours de ce soir, voyez-vous, tout simplement, eh bien, en s'appropriant davantage, apprenons-nous, eh bien, les gestes qui sont ceux de l'Église à ce moment-là. Donc, il y a le mot mémorial, et donc, c'est un acte sauveur en termes bibliques. Mais alors, donc, je prends avant... pour pouvoir, avant de le commenter lui-même, je dirais d'abord, voyons qu'est-ce qui se passe dans la prière eucharistique elle-même. Vous prenez la feuille qui est là. Je pars de la liturgie de Hippolyte. Bon, cette liturgie de Hippolyte n'a jamais été la liturgie d'une église particulière. Elle était composée par ce dénommé Hippolyte. Il reste que malgré tout, elle est intéressante et... Enfin, c'est celle-là qu'on a redécouvert au 19e siècle, et alors qui, de fait, a donné son modèle à la deuxième prière eucharistique. Alors, si vous regardez, eh bien, quels sont les moments où on parle au pronom « nous » Eh bien, au tout début, dans l'action de grâce, il est dit « Nous te rendons grâce, ô Dieu, par ton enfant bien-aimé Jésus-Christ, que tu nous as envoyé en ces derniers temps. » Autrement dit, le premier acte de l'Église, il est celui de rendre grâce. Et toute la suite, les paragraphes qui suivent, ce n'est pas l'Église qui parle, eh bien, dans cette action de grâce, tout simplement, elle évoque ce que le Christ, l'enfant de Dieu, lui a fait. On voit bien, on retrouve ici... puisqu'on n'est encore pas tellement loin de la prière de table juive, ce que vous appelez la Birka Amazon, il y a d'abord, on pourrait dire, il y avait la bénédiction sur la création, bénédiction sur l'histoire du salut. Et au terme, vous vous rappelez, eh bien, la troisième prière de la Birka Amazon, eh bien, c'était une supplication, hein, que Dieu se rappelle de son peuple. Donc, on voit ici, eh bien, on évoque ce que, eh bien, le Christ lui-même a été. D'abord, au niveau de la création, peut-on dire, hein, puisqu'il est ton verbe inséparable, par qui tu as tout créé et en qui tu as mis toutes tes complaisances. Vient alors, eh bien, on pourrait dire, l'incarnation, hein, hein, puisqu'il est né, c'est la première fois qu'on n'a pas, il est né, donc, de l'Esprit Saint et de la Vierge. Vient ensuite, peut-on dire, eh bien, la manière dont tu l'as accompli, hein, l'œuvre qui lui était confiée. Hein, et cela, pourquoi? Pour t'acquérir un peuple. Hein, et donc, c'est donc le Christ dans son mystère de mort et de résurrection. Voilà, on évoque, c'est pas, c'est, à l'intérieur de ce « nous » qui est l'action de grâce. Hein. Et tout cela se termine, ce grand mouvement, peut-être important de voir, voyez-vous, que la liturgie, ce n'est pas seulement des idées, ce n'est pas seulement des notions, c'est aussi un mouvement. Alors on voit ici que tout ce mouvement d'évocation, hein, de ce pourquoi on rend grâce, se conclut, hein, par, eh bien, le récit, hein, le récit de l'institution. Et vous l'avez, hein, « Tandis qu'il se livrait à une souffrance volontaire, nous a-t-il dit, alors il prit du pain, il rendit grâce, et il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Autrement dit, le récit, peut-on dire, de l'institution vient comme clore, hein, cette évocation, hein, cette remise en mémoire, laudative, parce que c'est tout de même, hein, de ce que Dieu a fait pour nous. Et alors, à ce moment-là, voilà, c'est là que nous en arrivons, hein, eh bien, il y a la phrase, « Quand vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi. » Et là viennent, bah, retenons, quelles sont les actions, quels sont les verbes, où c'est le « nous » de l'Église, le « nous » que nous sommes, hein, qui posons les actes. Et on le voit, voyez-vous, c'est la phrase suivante, nous souvenons donc de sa mort et de sa résurrection. Nous t'offrons le pain et le vin. Hein, c'est le premier acte. C'est ce qui est derrière le mot mémorial. Et alors vous avez ensuite, et, hein, donc il y a une deuxième action, hein, qui suit. Et nous te demandons, hein, d'envoyer ton Esprit Saint sur l'offrande de ton Église en la rassemblant dans l'unité. Autrement dit, là, nous sommes au niveau de ce qu'on appelle l'épiclèse. L'épiclèse, bon, c'est un mot grec, c'est invoquer sur, demander sur, épi, c'est sur, kaleo, c'est demander, donc c'est une invocation à Dieu, eh bien, sur les offrandes elles-mêmes, hein, qu'on a présentées. Donc, autrement dit, il y a donc deux gestes. La liturgie, autrement dit, se résume à deux gestes. Action de grâce, et alors concrètement, eh bien, un geste « nous souvenons, nous t'offrons », et alors, eh bien, le deuxième, l'envoi de l'Esprit-Saint. Il faut se dire, voyez-vous, que, et c'est là que nous avons devant la notion de mémorial, hein, c'est de même se souvenir, hein, dans la Bible, ce n'est pas seulement, eh bien, se rappeler quelque chose qui s'est passé. Dans la Bible, le mot mémorial renvoie, hein, à des réalités concrètes. Autrement dit, nous sommes dans une histoire de salut, hein, une histoire dans laquelle, eh bien, Yahvé ou Dieu est intervenu, hein, et en intervenant, eh bien, marque de l'irrévocable. Hein. C'est dans l'histoire, et pourtant, en même temps, eh bien, ce sont des actes de Dieu. Hein. Voilà. Et alors, donc, ça peut être concrètement, donc, un mémorial. On a déjà eu, hein, vous vous rappelez, parce qu'on garde une mémoire tous ensemble à mesure qu'on avance, hein, vous vous rappelez, eh bien, lorsqu'on parlait de la Bianca Amazon, il était demandé, enfin, à Dieu de se souvenir de son peuple, de la cité sainte qui est Jérusalem, hein, et alors, de bâtir Jérusalem. On voit que ça, le mémorial, ce sont des choses, ce sont des personnes, ce sont des réalités, hein, dans lesquelles Dieu s'est engagé. Hein. Et en même temps, eh bien, si encore un peuple d'Israël, un peuple choisi, c'est précisément dans la mesure où il s'est gardé, hein, la mémoire, hein, de ces gestes de Dieu dans son histoire. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui relève de ce qu'on appelle le mémorial, hein, et qui montre que ce n'est pas seulement des idées, ce n'est pas seulement un souvenir, mais c'est des réalités concrètes. Ouais, le passage de la mer Rouge, par exemple, eh bien, est précisément un cas type de mémorial. Hein. C'est inscrit dans l'histoire d'Israël. Quoi. Et alors, du coup, eh bien, voilà l'autre élément, c'est que, eh bien, on doit se souvenir, puisqu'au fond, sa propre identité dans l'histoire passe, eh bien, par ses choix, hein, ses actions, hein, ses engagements de Dieu vis-à-vis d'Israël. Mais en même temps, voyez-vous, eh bien, c'est ça qui est la notion de mémorial, c'est qu'on peut précisément en appeler à ses faits, hein, à ce que Dieu a fait lui-même, eh bien, pour nous rappeler à son souvenir. Autrement dit, la foi d'Israël, notre foi chrétienne, passe par une mémoire. Hein. Le fait que, eh bien, on sache se rappeler, se souvenir de ce que Dieu a fait, et en même temps, eh bien, en s'appuyant, en tablant là-dessus, eh bien, de pouvoir, eh bien, se rappeler à son souvenir, à lui. Hein? Souviens-toi. Hein? Et souviens-toi, précisément, par exemple, prenons le cas, hein? Souviens-toi, hein, de ton mémorial, qui est Israël, ben, précisément, eh bien, pour le prendre, l'avoir à cœur, et alors, eh bien, pour le faire grandir. Autrement dit, ma prière à moi, pour moi, elle est finalement, eh bien, à propos de, et surtout, eh bien, pour que l'œuvre, comme on dit parfois dans la liturgie, hein, que l'œuvre que, eh bien, Yahvé a déjà commencé puisse être menée donc à son terme. Donc, on voit, nous avons la notion de mémorial comme telle implique non seulement ce souvenir, mais elle implique aussi un acte, elle implique aussi un engagement. Hein? Et vous le voyez ici, si on suit tout simplement le texte, nous souvenant donc de sa mort et de sa résurrection, comment se souvenir de sa mort et de sa résurrection? Eh bien, c'est en posant un acte, et qui est celui nous t'offrons. Vous remarquez ici qu'il n'est pas dit, nous souvenant, eh bien, de son dernier repas avec ses disciples. Hein, on n'est pas là, autrement dit, à vouloir reproduire, peut-on dire, la scène pour elle-même. Hein. Mais à la scène, eh bien, ce que le Christ a fait en donnant son corps et son sang, eh bien, cela était déjà une anticipation, hein, une actualisation, eh bien, de ce qui se passerait dans les heures qui suivent à la croix. Hein? Donc, on voit. Et pour nous, eh bien, reproduire le repas du Seigneur est précisément en lien avec ce mystère de mort et de résurrection. Donc, vous voyez, si un souvenir, eh bien, ça passe par un acte. Et cet acte-là, comme on le voit ici, eh bien, on s'en souvient, autrement dit, en offrant. Comment se souvient-on? Non pas en se reportant au passé comme tel, mais finalement au présent, en posant un acte qui est bien celui de « nous t'offrons ». Et cela est au Père. Hein. Tout dans la liturgie, de la prière eucharistique se rapporte toujours et bien au Père. Et donc, autrement dit, et du coup, eh bien, cet acte au présent, dans cet acte au présent, eh bien, s'authentifie, peut-on dire, eh bien, notre mémoire de la scène elle-même. Et peut-on dire, c'est à travers cet acte-là, qui est un acte de l'Église, hein, eh bien, dans ce geste d'offrande, et qui reprend ce qu'a été l'offrande du Christ à la scène, parce que c'est ça, il s'est tout de même offert à son Père pour nous, hein, eh bien, à l'instar du Christ à la scène, eh bien, qu'on reproduit aisément la... qu'on rend présent, hein, eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, dans l'Église. Fais ceci en mémoire de moi. Donc, c'est l'Église qui fait. C'est nous qui faisons. Et en le faisant, eh bien, c'est le Christ lui-même qui se donne, quoi, hein, dans son mystère de mort et de résurrection. Alors, je continue, hein, je relis comme ça. Hein. Donc, ça, c'est la notion de mémorial, hein, et qui est capitale, et qui, de fait, est une affaire, qui a été redécouverte au dernier siècle, hein, parce qu'on avait avec... uniquement, jusqu'alors, un peu, la théologie tridentine, hein, bon, hein, qui se répétait elle-même. Hein. Et voilà, donc, c'était un bibliste, hein, protestant, luthérien, Joachim Jeremias. Hein, hein. Ensuite, était un réformé, hein, Max Turian, qui, de fait, ensuite, est passé à Thésée, voilà, passé au catholicisme. Il avait écrit un volume sur le mémorial de Seine. Et alors, en même temps, le dernier, d'un point de vue catholique, c'était donc Louis Bouillet. Hein? Et donc, on voit que derrière cette redécouverte, hein, ce que j'ai résumé en quelques mots ici de la notion de mémorial, eh bien, il y a tout de même une, on pourrait dire, il y a eu une recherche écuménique, hein? Et qu'on aura l'occasion de le revoir parce que c'est la fois prochaine, on aura abordé la question du sacrifice, et bien, comme Max Turian le fait remarquer, si jamais, hein, malgré toutes les différences qu'il y a, hein, pour une théologie entre le protestantisme et, disons, notre liturgie à nous, et bien, ça pourrait être éventuellement à partir de cette notion de mémorial et de son caractère sacrificiel. On reviendra sur ce mot dans l'Ancien Testament, et bien que pour qu'on pourrait en arriver à trouver des lieux d'accord communs, hein, par-delà, et bien, ce qui s'est passé pendant les derniers siècles. Alors, on voit bien, on est là devant une notion biblique. Hein, hein. Elle a son fondement dans une anthropologie biblique. Elle n'est pas seulement d'être dans les idées générales ou éternelles ou qui dépasseraient, si on peut dire, là, on ne sort jamais des faits eux-mêmes. Hein, hein, que ce que Dieu a fait, ce qu'il a inscrit dans l'histoire et ce qu'il donne. Or, que voulez-vous, hein, le mémorial par excellence, hein, la chose, peut-on dire, par excellence, hein, tient, qui n'est pas seulement hein, de notre imagination. Eh bien, c'est le corps et le sang du Christ. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Hein? Autrement dit, ce autrement, en le rendant présent, parce que nous souvenons, eh bien, c'est le Christ dans son corps et dans son sang tel qu'il nous était donné à la scène. Et en même temps, et c'est là, hein, eh bien, cela sera au point de départ de ce que, à partir ce mémorial, le corps et le sang du Christ, eh bien, nous sommes, comme peut-on dire, attitrés, hein, à pouvoir adresser nos demandes à Dieu. Hein, hein. Notre prière, elle découle, elle est fondée sur ce que le Christ a fait et ce qu'il a été. Donc, voilà, alors je continue. C'est uniquement parce qu'on se laisse, enseigner par le texte. Hein. Et je me dis, tiens, dimanche prochain, éventuellement, ben, il pourrait arriver que vous les réentendiez d'une façon moins accoutumée, nouvelle. Hein. Alors vous voyez, ensuite vient, je reprends. Nous souvenons donc de sa mort et de sa résurrection. Nous t'offrons le pain et le vin. Et alors, il y a la phrase suivante. Là, c'est une participiale aussi, celle-là. En te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir. Autrement dit, de pouvoir, en offrant, eh bien, on est rendu digne ou jugé digne de pouvoir nous tenir devant lui et de le servir. Et c'est ici, je crois, que eh bien, se trouve, dans les faits, dans les actes, eh bien, ce que, entre autres, Vatican II a remis en valeur, nous a aidé à redécouvrir, à savoir eh bien, que nous sommes un peuple sacerdotal. Nous sommes un peuple sacerdotal. Et qui se tient debout, précisément pour offrir eh bien, le pain et le vin. Voilà. Donc, ça, c'est seulement le premier, vous voyez, il y a premier geste, première action. Comme vous dites, la première en tout, qui englobe tout, bien entendu, nous te rendons grâce. Et qui a toute l'histoire, qui se rappelle l'histoire du salut. Et alors, le premier acte, ici, c'est seulement nous souvenons, nous t'offrons. C'est à travers un acte, finalement, eh bien, qu'on se souvient. Et un acte au présent. Et alors, vient là-dessus la deuxième, et qu'il a inséparable, parce que vous voyez le « et nous te demandons ». Et qu'est-ce qu'on demande, voyez-vous? Là, c'est encore un acte de l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'on demande au Père? C'est l'envoi de l'Esprit-Saint. Vous voyez, la prière eucharistique, elle est foncièrement, elle nous enseigne même, elle nous aide à avoir une prière qu'on pourrait dire trinitaire. S'adresser au Père par le Fils, par l'enfant Jésus, et finalement, eh bien, dans la grâce, eh bien, de l'Esprit-Saint. Alors, je prends le texte comme il est là, je le laisse, après ça, on verra les transformations qu'il y a lorsqu'on pense à la deuxième prière eucharistique. Eh bien, je le lis. « Et nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint sur l'offrande de ton Église Sainte en la rassemblant dans l'unité. » On voit bien, l'Esprit Saint est toujours, quoi qu'il en soit, celui qui est le lien d'unité dans l'Église. Il est l'âme de l'Église de ce point de vue-là. Et donc, autrement dit, le propre de l'Esprit-Saint, c'est de rassembler dans l'unité. Enfin, c'est le souhait qu'on formule sur la communauté que nous sommes à ce moment-là. Donc, d'envoyer ton Esprit-Saint sur l'offrande de ton Église en la rassemblant dans l'unité. Donne à tous ceux qui la reçoivent qu'ils soient remplis de l'Esprit-Saint pour l'affermissement de leur foi et dans la vérité. Et on voit, afin que nous puissions enfin te louer et te glorifier. Donc, ça passe, comme on dit, on offre. Ça revient à dire ceci, ça sera encore mieux explicité dans d'autres prières eucharistiques. On aura à revenir sur la notion donc, de sacrifice, mais ça revient à dire ceci, voyez-vous, on offre. Encore faut-il que ce que l'on offre soit accepté, soit agréé, voyez-vous, nous rentrons dans une relation. Bon. Que ce soit accepté, que ce soit agréé, eh bien, par le Père, eh bien, la réponse à cela, eh bien, c'est le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit, ici, enfin, si on suit le texte tel qu'on l'a, parce que ce sera après ça à préciser, eh bien, ce don de l'Esprit qui va sur les offrandes, et qu'il transforme dans le corps et le sang du Christ, et alors surtout, eh bien, qui vient sur la communauté. Autrement dit, il y a une épiclèse ici qu'on appelle parfois une épiclèse de communion. En ce sens, communion, c'est-à-dire tout de même communier aux choses saintes, donc communier au corps et au sang du Christ, mais aussi, eh bien, en même temps, eh bien, communier les uns avec les autres. Hein. Donc, l'unité, le repas se fait à partir de cela, quoi. Donc, et alors, voyez bien, au terme, hein, on en arrive. On commence à avoir une mémoire. Vous vous rappelez comment la prière de bénédiction juive s'est trouvée transformée déjà dans la didaké. Elle est devenue non, action de grâce. Et après, chaque moment de la prière, vous aviez « Gloire à toi, Seigneur hein? ». Autrement dit, c'est pas toujours... Autrement dit, quelle que soit la prière, les Juifs font toujours bah, « Béni sois-tu, Seigneur ». Nous, c'était « Gloire à toi, Seigneur ». La doxologie. Alors, si on regarde de ce point de vue-là, le programme général de la prière, on voit, eh bien, elle est action de grâce et qui, au terme, eh bien, se conclut par une doxologie. Autrement dit, action de grâce pour ce qui nous est donné. La doxologie, on peut dire, ben, c'est Dieu pour lui-même. Hein, hein, gloire à toi, hein, hein, Père. Fils et Esprit. Donc, voilà. Or, le passage, peut-on dire, hein, de cette action de grâce initiale à cette doxologie finale, elle passe par deux actions. Hein. Deux fois, on a le pronom « nous hein. ». Nous souvenant, nous t'offrons, nous souvenant de sa mort et de sa résurrection. Nous t'offrons hein, ce pain et ce vin. Et alors, la deuxième, eh bien, en réponse, la demande, c'est que en réponse à ce geste d'offrande, eh bien, nous soit donné l'Esprit, l'Esprit Saint. Donc, ce sont très faciles, très simples, la prière eucharistique, si on y regarde de près, c'est pas compliqué, hein, ces deux actions, hein, et qui sont unies l'une à l'autre avec un « et hein, ». Hein. Voilà, autrement dit, l'avantage de notre petite anaphore d'Hippolyte, c'est qu'elle permet de dégager hein, des choses. Alors, par ailleurs, maintenant nous prenons la prière eucharistique, parce que ça va permettre hein, de voir la prière eucharistique bon, que nous avons. Hein, très souvent, c'est celle en semaine qui est dite. Habituellement, le dimanche, ce sera plus souvent la troisième prière eucharistique. Hein. Et alors, ceux qui aiment la liturgie, ben, ce sera la quatrième qui, elle, hein, elle est précisément dans le style de ces grandes liturgies d'Orient, quoi. La quatrième prière eucharistique, au point de départ, bon, je ne vais pas seulement comme ça, hein, la quatrième, au point de départ, on s'était demandé hein, si on ne pouvait pas mettre tout simplement, texto, sans rien y toucher, la liturgie de Saint Basile. Et dans un deuxième temps, et vous verrez la raison pour laquelle on ne l'a pas fait d'un point de vue... Donc, autrement dit, il n'y avait aucun problème dogmatique. Hein? Mais d'un point de vue pastoral, eh bien, c'est que ça ne correspondait pas à la forma mentis, à la manière hein, de procéder qui est propre à la liturgie latine et qui est la nôtre, et, donc, et que nous allons voir uniquement en regardant cette prière. Alors, donc, le début, ça commence tout de même, nous te rendons grâce par ton Fils bien-aimé. Là, vous avez toutes les vocations, hein, on peut dire, la création, ensuite l'incarnation, ensuite, eh bien, il mort sur la croix. Alors, vous aviez, alors là, bien entendu, je l'ai relevé la fois dernière, vous, là, l'anaphore d'Hippolyte, elle est calquée, elle développe la prière de table domestique juive. Mais alors, il y a d'autres prières hein, liturgiques juives. Ce sont les prières de la synagogue. Hein, hein. Il y en a une, entre autres, le jour du sabbat. Hein, il y a une première grande, on peut dire, beraka, hein, qui se termine précisément de façon assez luxuriante en se référant à Ézéchiel, en se référant en même temps à Isaïe, précisément, eh bien, à ces myriades de multitudes qui louent Dieu dans le ciel. Autrement dit, ils le sentent tous, il est là, dans la liturgie juive déjà. Et donc, première chose qu'on a fait, on a intégré le fait que le sanctus est devenu commun, quoi qu'il en soit, à toutes nos liturgies, donc même chose avec le canon romain. Alors, ça arrive là. Alors moi, je me dis ceci, seulement un petit commentaire comme cela, on suit le texte, on se laisse enseigner par lui, eh bien, je dirais, voyez-vous, que le sanctus, il est là, avec les anges et avec les saints, proclamant ta gloire. Eh bien, voyez-vous, nous sommes avant même d'entrer dans l'action, dans l'acte liturgique lui-même, on est mis devant, on veut dire, en lien avec la liturgie céleste. Il y a les anges, il y a les saints. Et alors, c'est une dimension de l'action liturgique à laquelle, je crois, les églises d'Orient sont beaucoup plus sensibles que nous le sommes, nous. Peut-être qu'on était marqués par le positivisme et tout ça, qui ne voit plus, l'écologie et tout ça, mais qui ne voit plus de mystère, peut-on dire, au niveau des choses créées. Il reste que malgré tout, les anges sont des créatures, comme nous, nous sommes des créatures. Les anges, de ce point de vue-là, on pourrait dire, ils sont la face cachée de cet univers créé qui est le nôtre et qui est déjà tourné vers Dieu dans la louange. Autrement dit, il y a un aspect, on pourrait dire, à la liturgie aussi, un aspect cosmique. Ce monde est plus enchanté qu'on le croit, parce qu'il y a tout de même, eh bien, il y a les anges qui, eux aussi, avant même qu'on loue, eh bien, loue Dieu. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, de ce point de vue-là, c'est l'entrée dans la prière et c'est ça. Alors, maintenant, donc, ça, c'est un commentaire que je faisais. Maintenant, suis le texte. Et là, c'est là que nous arrivons, c'est là qu'est la grande ajout. On pourrait dire, eh bien, correctif à la liturgie de Saint-Hippolyte. Alors, ça ne revient pas. Donc, je vais aller assez vite parce que je vais tout de même arriver jusqu'au bout. Mais, bon, voyez, il y a une première épiclèse. Avant le récit même de l'institution. Une épiclèse qui est une épiclèse qu'on va appeler consécratoire. Autrement dit, elle consacre, elle demande, eh bien, que l'Esprit-Saint soit envoyé. Je lis. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Pourquoi? Pour qu'elles deviennent pour nous. Parce que l'offrande, à ce moment-là, c'est le pain et le vin. Eh bien, que l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous, c'est important le pour nous, le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. On dit, vous avez là une épiclèse qui concerne ce qu'on appelle les oblats. Le pain et le vin, pour qu'ils deviennent, eh bien, le corps et le sang du Christ. Avant même le récit de la scène. Et alors vient à ce moment-là, après cela, une deuxième épiclèse. Et alors, on voit, je prends, je vais voir, une deuxième épiclèse, après, parce que le bloc, le récit lui-même, est toujours en lien avec « nous souvenons, nous t'offrons ». On ne peut pas l'isoler comme tel. Si on l'évoque, ben c'est pour nous, pour que, puisque nous souvenons, eh bien, nous offrons. C'est ce qu'on appelle donc l'anamnèse ou encore le mémorial. Mais alors vient alors la deuxième épiclèse, après. « Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » On voit bien, là, nous avons l'épiclèse de communion. Autrement dit, c'est ça qui est aussi important, voyez-vous. Si le Christ vient sur l'autel, ce n'est pas d'abord, il est là. Ce n'est pas seulement pour qu'on le regarde, ce n'est pas seulement pour qu'on l'adore. S'il est là, c'est pour construire l'Église, son Église, son corps qui est l'Église. Si bien que de fait, on le verra aussi avec les épiclèses là, dans les églises d'Orient, on pourrait dire, ce qui est premier dans l'ordre d'une intention, c'est de construire l'Église. Donc, c'est l'épiclèse de communion. Mais alors, ce qui de fait dans l'exécution, voilà, ce sera, on pourrait dire, que eh bien, son corps et son sang et qui sont là sur l'autel. Non, il y a un lien tout de même entre le Christ et l'Église que nous sommes. Voilà. Alors donc, j'en reste là. Seulement, je fais remarquer ceci. Bon, vous regardez vos deux feuilles. C'est là que je dis, à la fois vous allez le sentir et probablement pas le sentir, ce n'est pas au niveau des, ce n'est pas au niveau des idées. Quoi. Alors, ça revient à ceci. Je vous disais, au point de départ, que eh bien, les premières prières eucharistiques, probablement du 1er, du 2e siècle, il n'y avait pas le récit de l'institution. Vous vous rappelez? En tout cas, il y a encore des prières eucharistiques, comme celle des Chaldéens, Adda et Marie, j'en ai lu une section, qui n'a pas le récit de l'institution et qui pourtant, comme le dit, voilà, précisément de par l'intention, de par, eh bien, on pourrait dire, disséminé à travers les prières, on retrouve ce qui est le récit lui-même. Donc, on peut présumer que, comme pour la Didache, au point de départ, le récit est venu s'ajouter. Là, on peut employer un mot technique, comme je l'ai déjà employé, abolisme, c'est-à-dire ce qui vient s'insérer au point de liturgie, est venu s'insérer dans ce qui était, dans ce que Justin appelait tout simplement, mais savoir de tout son cœur, avec énergie, autant qu'on le peut, autrement dit, faire des prières d'action de grâce. Et tout d'un coup, c'est venu se mettre là. Maintenant, ça s'est mis là, mais selon l'endroit où il vient, il n'a pas tout à fait la même portée. Autrement dit, il est au cœur de l'anaphore d'Hippolyte. Il est là aussi dans la nouvelle. Mais vous voyez, l'anaphore d'Hippolyte, on évoque toute l'histoire du salut. On en arrive donc au récit de la scène, et après ça, faites ceci en mémoire de moi, et c'est à ce moment-là que tout se passe. Nous offrons et nous demandons. Autrement dit, c'est comme si la prière eucharistique se repartissait sur deux grands moments. Le premier, l'évocation, la mise en mémoire, dans l'action de grâce, et le deuxième, où on fait les choses. Parce qu'au fond, c'est un faire. Alors que si vous prenez le deuxième modèle déjà, et on va le voir avec le canon romain tout de suite, et là, vous voyez bien, vu que vous avez cette épiclèse, cette évocation à l'Esprit Saint avant même la prière, une autre après, voilà, ces deux épiclèses encadrent le récit, font que tout d'un coup, le récit passe, devient central, quoi, plus central, quoi. Et à l'intérieur de ce début de l'air, viens et le récit, et en même temps, nous t'offrons. Autrement dit, il y a un accent, il y aura deux lignes, et qui sera celle, peut-on dire, de la liturgie, comme on va le voir avec le canon romain, et qui met précisément le récit lui-même au cœur même de la prière eucharistique. Et alors, vous aurez la prière orientale, qui est, comment on dit, pour nous, le moment clé, le moment où les choses se passent. C'est le moment où le prêtre dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors que pour les liturgies d'Orient, le moment, et alors, à ce moment-là, le prêtre, comme on dit, tient la place, agit à la place du Christ, quoi. Donc, la portée christologique est très forte, première. Les liturgies orientales, elles, le moment par excellence, peut-être, le moment, c'est pas, on a le récit, mais c'est le moment où le prêtre lui-même, hein, eh bien, supplie, implore pour la descente de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui vient sur les oblats, et alors l'Esprit-Saint, eh bien, qui vient renouveler la communauté. Autrement dit, c'est ça qu'on va voir avec les textes qui suivent, hein. Mais voyez, et qui fait que nous sommes davantage, peut-on dire, qu'on le veuille ou non, christologiques. Il y a une complémentarité des deux, parce que c'est toujours la même foi. Tandis qu'en Orient, vous le voyez, le moment important n'est pas le moment où le prêtre dit, avec l'autorité du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est le moment où le prêtre est en prière. Autrement dit, ce n'est pas l'indicatif, mais c'est déprécatif, en prière, ben précisément parce que la liturgie, que ce qu'on demande, eh bien, de par la grâce du sacrement, eh bien, Dieu l'accorde, et donc, à ce moment-là, ça demande de l'arrivée de l'Esprit-Saint. Voilà. En tout cas, la seule chose qui est à retenir, voyez-vous, c'est qu'il y a deux actions. Hein. L'une, c'est nous souvenant, nous t'offrons. Et la deuxième, eh bien, nous te demandons d'envoyer ton Esprit-Saint. Et alors, de toute façon, il y a deux épiclèses dans la liturgie qui est la nôtre. Eh bien, l'une est avant le récit, l'autre est après le récit. Elles, on peut-on dire, elles encadrent le récit. Tandis que dans la liturgie orientale, eh bien, c'est comme pour ici, pour Hippolyte, elles suivent, nous souvenant d'eux. Là, vous avez la double demande, invocation, l'une sur les oblats et l'autre. Alors, voilà, un dernier élément avant de passer à autre chose, vous voyez bien, il y a une correction apportée au texte. Hein. Vous le voyez bien, si vous prenez notre ami Hippolyte, vous voyez, qu'est-ce que Hippolyte offre? Nous offrons le pain et le vin. Donc, hein, nous souvenant de sa mort, nous offrons le pain et le vin. Tandis que la liturgie, donc, la prière eucharistique, numéro 2, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, non pas le pain et le vin, le pain de la vie et la coupe du salut. C'est donc dire le corps et le sang du Christ. Voyez-vous, hein? La transformation. Autrement dit, pour nous, la transformation, elle s'est faite dans la reprise des paroles du Christ à la dernière scène. C'est bien que ce que nous offrons, c'est le corps et le sang du Christ. Alors que dans l'autre, nous offrons le pain et le vin. Bon, restons-en là. Ce que je voudrais seulement, voyez-vous, hein, parce que on peut pas passer par-dessus, vous savez, plusieurs d'entre vous, hein, il doit y en avoir de ma génération parmi vous, hein, eh bien, ont eu jusqu'en 69 uniquement, eh bien, ce qu'on appelle le canon romain. Eh bien, c'est une belle, on a dit pratiquement plus. En même temps, c'est une belle prière eucharistique. Paradoxalement, elle est beaucoup plus proche de la prière, on dit, de bénédiction juive. Vous vous rappelez la prière de bénédiction juive? Ce sont des prières courtes qui se suivent l'une l'autre, hein, et non pas une seule phrase ou un seul mouvement, comme déjà on l'a dans l'anaphore d'Hippolyte et tel qu'on l'aura ensuite dans la liturgie, hein, antiochienne, c'est-à-dire la liturgie. Donc, alors on voit bien, ce sont toutes des petites phrases, hein, qui se juxtaposent. Et même dans le texte en latin, auparavant, à 3-4 reprises, vous aviez Per Domnium Iesum Christum. Autrement dit, il y avait même une clausule finale. Alors, si vous regardez ça, seulement je dirais maintenant, hein, on fait que visualiser, hein, hein, vous pourrez la regarder par vous-même. Ben, je dirais d'abord, voyez-vous, si vous commencez, c'est marqué te et du tout, le premier mot en latin, c'était le premier mot en latin, hein, voilà. Hein. Alors, vous avez en un sens, important, le canon romain n'est pas toute la prière eucharistique, parce que le propre de la prière, des prières du canon romain, c'est d'avoir des préfaces. Toutes les liturgies orientales n'ont pas de préfaces. elles sont inamovibles, quoi. Hein. Autrement dit, vous avez un texte continu. Alors que liturgie romaine, vous avez donc des préfaces qui varient, le Sanctus et alors le texte. Alors, je lis la première phrase. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges. Bon. La louange a déjà eu lieu. Maintenant, on passe à la supplication. Nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Autrement dit, pratiquement, c'est la demande qui passe au point de départ. Le programme de tout le canon romain, il est là, hein, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Les accepter, et si tu les acceptes, tu les bénis. Et donc nous soyons comblés de bénédictions. Alors, si vous regardez maintenant, il faut partir du centre, voyez-vous, 5 qui est là. Vous avez le récit de l'institution, et alors vous avez précisément le mémorial ou l'anamnèse, exactement les mêmes mots, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, notre Seigneur. Nous te présentons cette offrande. Vous avez, nous souvenant de sa mort et de sa résurrection, eh bien, nous t'offrons. Et qu'est-ce qu'on offre? Eh bien, c'est, voyez-vous, on reviendra sur la notion de sacrifice, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Ça, c'est la partie centrale. Tout ce centre. Alors, ensuite, un premier cercle, hein, eh bien, ça sera celui de reprendre la notion tout de même. Là, il n'y a pas de mention de l'Esprit Saint dans le canon romain, mais c'est toujours, eh bien, que, eh bien, le Père comble de sa bénédiction. Hein. D'abord, eh bien, la première qui sur, on va dire, la consécration, sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Hein. Rends-la parfaite et digne de toi. Voilà. Hein? Et là, vous avez l'épiclèse, peut-on dire, de Constance. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. Demande d'acceptation. Et si c'est accepté, eh bien, la bénédiction, la première bénédiction, eh bien, c'est que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ. Après ça, vous avez le même scénario, hein, parce que ça, c'est le deuxième cercle, peut-on dire, hein, pour ce qu'on pourrait appeler l'épiclèse de communion, suite encore une fois à la demande que l'offrande soit acceptée en réponse à cela. Donc, c'est le supplice tergamus, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Comme on dit, le cœur, le centre, c'est le mémorial, et alors, le premier cercle concentrique, c'est la double épiclèse, une de consécration, l'autre, eh bien, pour nous. Alors, troisième cercle, qui n'est pas autre chose, hein, eh bien, c'est là, maintenant, qui n'est pas le corps central de l'Eucharistie, eh bien, c'est les intercessions, hein, ou encore les commémorations. Hein. Donc, ce sera trois, hein, ou encore, eh bien, cinq. Hein. On a en même temps le génie romain, il y a une espèce d'équilibre, hein, tout en étant encore dans une forme qui est celle de la prière juive de bénédiction. Et au terme, ben vous arrivez à la doxologie. Hein, donc, c'est le mouvement de la prière elle-même. Alors, je vous demande tout simplement, vous regarderez vous-même, hein, je ne fais que. L'anaphore ou la prière eucharistique, autrement dit, de Saint Jean Chrysostome. Alors, remarquez, comme je disais, nous avons à ce moment-là, hein, l'évocation, le récit lui-même, et après ça, eh bien, selon l'ordonnance, hein, eh bien, on offre, nous souvenant, en faisant mémoire de la passion et de la mort, nous t'offrons ce qui est à toi, nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi. Hein? Ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en tout et pour tout, donc c'est l'offrande. Et alors vient alors, l'Esprit Saint. Hein? Donc c'est la phrase ensuite. Nous t'offrons encore ce culte spirituel et nous t'invoquons, te prions, te supplions d'envoyer ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons. Les dons, voilà, c'est le, hein, on a l'épiclèse de consécration, de faire que de ce pain le précieux corps de ton Fils, le changeant hein, par ton Esprit Saint, dans le corps et le sang du Christ, même chose eh bien, pour la coupe de sang. Et alors, et tout cela, pourquoi? De sorte qu'il soit, donc on voit, c'est là qu'on en arrive à l'épiclèse de communion, ou pour nous, hein, non seulement, alors pour nous, la rémission des péchés et la communion de l'Esprit Saint. Alors, je voudrais, bon, tout cela, pour terminer seulement, parce que c'est ça qu'il faut faire, voir la différence de dimension. Hein. Bon, c'est Saint Jean Chrysostome hein, qui essaie d'évoquer de façon presque visuelle le moment redoutable hein, où se fait la transformation hein, du corps, du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. Je lis. Hein. Le prêtre est debout. Alors, en même temps, il se réfère au sacrifice de l'ancienne alliance. Quoi. Le prêtre est debout et fait descendre non pas le feu, mais le Saint-Esprit. Il prononce une longue supplication. Non, c'est l'évocation. Non pour que le feu descende d'en haut et consume l'offrande, comme dans l'Ancien Testament, mais pour que la grâce, descendant sur la victime, la victime, ici, eh bien, c'est le corps et le sang du Christ, ou encore le pain et le vin, embrasse par elle les âmes de tous et les fasse plus brillantes que l'argent purifié et le sang. Je continue. Quand le prêtre se tient debout devant la table, levant les mains aux cieux et invoquant l'Esprit Saint pour qu'il descende et touche ce qui est offert, c'est la liturgie orientale. Hein? Alors, se fait un grand silence, un grand calme. C'est le moment où les choses se passent en Orient. Hein? Je vous lis une autre phrase, hein? Encore de Saint Jean Chrysostome. Que fais-tu, chrétien? Quoi? Au moment où le prêtre se tient devant l'autel, tendant les mains vers le ciel, hein? Il est là comme suppliant, comme implorant, appelant l'Esprit pour qu'il vienne et touche les oblats. Lorsqu'en le plus profond recueillement et le plus grand silence, l'Esprit donne sa vertu, qu'il touche les oblats. Lorsque tu vois l'agneau immolé et consommé, c'est alors que tu excites du trouble, hein, du tumulte, des querelles, des injures. Autrement dit, c'est pas le moment de faire du bruit, hein. C'est le moment où les choses se passent. Hein. Et vous le voyez, ça a rapport avec même le lien avec l'Ancien Testament et ce qui se passe à ce moment-là. Alors qu'en théologie occidentale, déjà avec Saint Ambroise, il dit vraiment le moment où les choses se passent. Hein, et il y a le moment où le prêtre, hein, je le trouve comme ça, le texte intéressant. Hein, vous allez voir, puis nous nous quittons. Voilà, je lis. Sérieusement. Vous prendrez des textes, ensuite vous verrez. Hein, alors, voilà ce que dit Ambroise, hein, en 387. Alors, il distingue soigneusement les paroles du prêtre et celles du Christ. Alors, dans la prière eucharistique, sont du prêtre les paroles où celui-ci loue Dieu, lui adresse la prière, prie pour le peuple, le roi et tout ça. Mais il poursuit. Dès qu'on en vient à produire le vénérable sacrement, le prêtre ne se sert plus de ses paroles, mais il se sert des paroles du Christ. C'est notre théologie. C'est la parole du Christ qui produit le sacrement. Ambroise poursuit la distinction jusqu'à l'intérieur. Il va même distinguer dans le récit, dans le Vendré, ce qui est de l'évangéliste et ce qui est du Christ. Et il dit, dès que surviennent les paroles du Christ, c'est le corps du Christ. Dès que les paroles du Christ ont agi, cela devient le sang qui a racheté le peuple. Et il conclut, « Or, quelle est cette parole du Christ ?» se demande-t-il. « Elle est celle par laquelle tout a été fait. » Conclut, « Or, combien est-elle plus efficace pour faire que ce qui était existe et soit changé en une autre chose. Vous voyez, c'est pas, il y a la création, voilà. Mais ici, c'est encore plus étonnant, c'est que non seulement, non, c'est pas une entreprise de, on peut dire, ramener à néant et de recréer, hein, pour faire que ce qui était existe, reste, et soit changé en une autre chose, le corps du Christ. Nous, le moment, hein, où spontanément, hein, vraiment, beaucoup se mettent à genoux, c'est ce moment-là. On pourrait dire, je ne sais pas comment ils font exactement, mais on voit bien en Orient le moment, hein, où tout s'arrête, peut-on dire. C'est là où tout d'un coup, eh bien, le prêtre a demandé et que l'esprit vient sur les oblats et sur. C'est la même théologie. Hein. Les accents sont différents. Hein, hein. Il y a une richesse donc, de part et d'autre. Hein. Mais vous le voyez bien, à chaque fois, c'est mémorial et pitlès, hein, qui se trouve articulé autour du récit de l'institution. Voilà donc, ça nous donne un peu une idée. Alors je me dis, ben, dimanche prochain, mettez-vous à écouter, hein, le canon. Comment ça marche? C'est très simple. Hein. Repérez les deux moments où vous êtes vraiment acteur, le nous, où le nous intervient. Hein. Nous offrons et nous. Et cela, nous rendons grâce. Père, Fils et Esprit. Donc, voilà pour cela. Nous commencerons la fois prochaine, parce qu'on a parlé à plusieurs reprises de la notion de sacrifice. Elle est. On va essayer de voir à travers les textes et surtout, on voit finalement la grande remise en question de l'Eucharistie, elle sera à la Réforme quand, eh bien, Luther, hein, refusera que l'Eucharistie soit un sacrifice parce qu'il n'y a qu'un seul sacrifice, c'est celui de la croix. Et alors on arrive à ce moment-là à deux manières différentes de concevoir, eh bien, la messe, donc la scène. Voilà.